Je vous invite à ouvrir le Saint-Livre dans l'Évangile de Luc au chapitre 22, le verset 24. Nous lisons « Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ?» Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. » Et Jésus dit, « Pierre, « je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Amen. » C'est un texte qui est surprenant. Ce n'est pas la première fois que les apôtres ont eu cette discussion hautement théologique, spirituelle, de savoir qui était le plus grand. C'est un sujet, on le voit, qui devait quand même les préoccuper, devait en parler. Là, ils étaient avec Jésus, mais la discussion est là et ils se posent toujours cette question. Alors qu'à d'autres moments, Jésus les a beaucoup enseignés sur cela, en disant, mais regardez cet enfant, il faut être comme ses enfants. Et malgré tout, on voit que la discussion est encore là, que ça doit peser sur leur cœur, le cœur d'apôtre, de dire, mais finalement, c'est qui le meilleur ? C'est qui le meilleur? Et cette fois-ci, on voit que Jésus ne va pas vraiment les tenir compte de cela. Il va quand même y avoir un enseignement. Il va leur parler en se prenant lui pour exemple, en disant que lui, il est venu pour servir et qu'eux aussi devaient faire de même. Et après, on dirait, dans le contexte, dans ce que nous avons lu, que Jésus va suivre une idée, mais qui n'a pas grand rapport, a priori, avec ce qui s'est passé avant. Parce qu'il va dire, voilà, vous, vous avez persévéré. Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Et là, on sent que c'est une bénédiction. Et que Jésus est en train de leur expliquer, Jésus va être arrêté. C'est les derniers moments que les apôtres passe avec Jésus-Christ, c'est les derniers instants, et avant qu'il soit arrêté, avant qu'il soit condamné, avant qu'il soit crucifié, Jésus a voulu leur dire, voilà, il y a cette bénédiction, c'est que vous avez persévéré. Et c'est pas le thème, le titre même, c'est pas la pensée du message, mais quand même, lorsque je méditais sur ce texte, sur ces versets, je me suis dit, mais là, vraiment, on sent qu'il y a, pour nous en tout cas, nous qui sommes là ce soir, nous qui vivons aujourd'hui, en 2015, une vie de chrétien, où peut-être on se demande, nous aussi, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que ce que je fais, c'est bien s'appeler à Jésus-Christ? C'est comme si Jésus était en train de dire, mais c'est pas ça que je regarde, c'est pas ça qui importe, c'est pas notre curriculum vitae spirituel, ce qui compte, c'est de persévérer, c'est d'être fidèle, c'est pas que vous puissiez croire ou ne pas croire que vous êtes grand, que vous êtes petit spirituellement. C'est pas ça qui doit intéresser. C'est pas ça ce soir qui doit nous intéresser. Ce qui doit nous intéresser, au vu de ce que Jésus-Christ va dire d'ailleurs tout à l'heure, et c'est sur cela que nous allons nous attarder quelques instants, au vu de ce qu'il va dire, il va dire, voilà, vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves, dans les épreuves que Jésus-Christ a passées, dans nos épreuves. Et c'est ça la pensée, dans ce que nous traversons. Comment est-ce que nous sommes ? J'ai regardé la définition de persévérer, et même si on la connaît, j'ai trouvé bon qu'on puisse la partager ensemble. Persévérer, c'est mettre en œuvre sa volonté, user de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés, pour rester ferme dans une résolution, une opinion, une attitude. C'est cela, persévérer. C'est malgré tout ce qui se passe, je sais, je connais le chemin, la direction que je dois prendre et je m'y tiens. C'est cela ma vie. Et on voit Jésus-Christ qui relève dans la vie des apôtres le fait qu'eux, ils ont persévéré. Mais ce n'est pas pour ça, et on va le voir, ce n'est pas pour ça que tout était bien, ce n'est pas pour ça que leur lendemain, ça va aller bien, ce n'est pas pour ça que lorsque Jésus va être enlevé, qu'il y aura sans cesse la bénédiction, qu'il n'y aura pas d'épreuve. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui est là important. Ce qui compte, c'est que nous, puisque c'est pour nous quand même ce soir, qui sommes là, qui sommes venus prier, peut-être vous avez quitté votre travail, vous êtes venus, vous êtes fatigués, et le Seigneur vous dit, mais c'est persévérer, persévère sur le chemin que tu as pris, persévère dans les épreuves. Ne regarde pas, encore une fois, et je le répète volontairement, ne regarde pas si tu es bien, si tu es grand, si tu es petit. On pourrait le traduire d'une autre manière. Ne regarde pas à toi-même. Ne regarde pas à tes capacités, dans ce que tu dois faire, dans ce que le Seigneur t'a confié. Ne regarde pas à tes propres forces, à ton intelligence. Mais persévère, tiens-toi attaché fermement au Seigneur, parce que c'est cela que Dieu regarde. Et c'est dans la persévérance, dans notre confiance, dans notre obéissance, que Dieu prend plaisir dans notre vie. J'ai relevé dans la parole de Dieu, parce qu'il y a quand même un homme qui nous montre l'exemple de persévérance. Enfin, vous vous doutez bien, il n'y a pas qu'une seule personne, sinon on sera en difficulté ce soir. Il n'y a pas qu'une seule personne, mais j'ai relevé ce texte et je vais vous le lire dans la version Parole de vie avant de vous donner la référence. Comme ça, vous allez écouter, ne pas être perturbé par rapport à votre version. C'est Jean qui parle. Moi, Jean, votre frère, il va dire, je souffre avec vous. Avec vous, j'appartiens au royaume de Dieu. Avec vous, je reste patient. Et le mot, c'est persévérant. Avec vous, je persévère aussi en étant uni à Jésus. Je suis déporté dans l'île de Patmos, et là, vous voyez la référence, parce que j'ai annoncé la parole de Dieu et que j'ai été le témoin de Jésus. Et encore une fois, ce n'est pas vraiment ce sur quoi je veux m'apesantir, m'attarder ce soir. Mais quand même, dans ce que Jésus partage, quand même, lorsque on considère notre vie, notre quotidien, on peut passer tous par des moments difficiles. On peut tous être tentés de dire, mais qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que je suis sur le bon chemin ? Pour reprendre la vie de Jean qui écrit, et c'est le début de l'Apocalypse, c'est le chapitre 1er au verset 9, lorsqu'il écrit ces quelques lignes. Patmos, la signification, c'est mon, M-O-N, meurtrier, mortel. Patmos, c'est l'endroit où on meurt. Et dans l'endroit où on meurt, Jean est en train de dire, mais moi, avec vous, j'ai quand même cette pensée, cette ligne de conduite. J'ai quand même ça qui est attaché à moi, c'est que je souffre avec vous, je suis avec vous, je persévère parce que j'appartiens au royaume de Dieu. Jésus pourra dire, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a une bénédiction. Et si les apôtres ont réussi, si nos frères ont réussi à persévérer, nous aussi ce soir, nous pouvons nous attacher à cette parole de qu'il faut persévérer, être constant dans notre engagement avec le Seigneur. Ne pas perdre pied, ne pas changer de direction, ne pas dire « mais moi aussi je traverse peut-être une période de ma vie où je peux dire que je suis dans mon Patmos à moi, dans mon île Patmos, et où ça me crée des difficultés ». Mais au cœur de la difficulté, nous pouvons nous écrier « Je suis uni à vous en persévérant, je persévère avec le Seigneur » parce que c'est lui qui va bénir, c'est lui qui fait son œuvre, c'est lui qui va permettre que nous puissions manger et boire dans ce festin qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Toujours est-il que, alors que Jésus parle, alors qu'il expose, alors qu'on sent qu'il dit vraiment une bénédiction pour ses apôtres, comme pour les encourager avant qu'ils soient arrêtés, il va y avoir un moment tellement important dans la vie des apôtres, dans la vie de Pierre. Et c'est mon premier point, parce que Jésus va dire, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Être criblé par Satan. Et là, on se dit, mais Jésus les a encouragés. Il a dit à ses apôtres, voilà, vous avez persévéré, c'est bien. Et peut-être que les apôtres s'imaginaient, ben, c'est bon, on va avoir 15 jours de vacances, on va avoir notre RTT, on va pouvoir être soulagés, le maître nous a félicités, il nous a enseigné, ça va. Mais après qu'il ait décrit cela, il y a cette réalité quand même qui est présente dans la vie, dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle, dans notre quotidien, c'est que Satan est là pour nous cribler. Et la persévérance, et je pense que c'est cela que Jésus-Christ voulait donner comme enseignement, entre autres, à ses apôtres, c'est que vous voulez persévérer, vous voulez et vous avez persévéré dans les épreuves déjà, mais aujourd'hui, si vous voulez encore persévérer, votre persévérance va s'exprimer dans la tribulation, dans la difficulté, parce que ce n'est pas quand tout va bien que nous allons pouvoir manifester notre foi et notre persévérance. Il y a ce texte, et il me semble que je l'ai entendu en prière tout à l'heure. Voici, c'est Jésus qui parle, voici, l'heure vient, et elle est déjà venue où vous serez dispersés, et on y reviendra, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, moi, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Qui ce soir peut dire, peut lever la main en disant « Je n'ai jamais eu de tribulation ». C'est pas possible. C'est pas possible. Qui ce soir peut dire « Mais moi, je n'ai jamais été criblé. Je n'ai jamais été là comme secoué. » Et Jésus est en train d'exprimer « Voilà, vous avez persévéré, c'est bien. Mais Satan veut encore vous cribler. » Et quelque part, peut-être qu'il est nécessaire que nous soyons criblés, secoués, pour que nous puissions nous persévérer, nous manifester notre attachement à Jésus-Christ. Et quand bien même Jésus est en train d'exprimer cela, et avant de dire que vous allez être criblés, il interpelle Simon en disant « Simon, Simon ». Et je suis convaincu que dans ce passage, alors qu'il interpelle Simon, ça s'adressait à tous les apôtres, parce que ce n'était pas seulement pour Pierre, quand bien même on sait qu'après il va renier Jésus, quand bien même on sait qu'il va passer des moments difficiles, il s'adressait à ce moment-là à tous les apôtres. Vous avez été avec moi, vous avez persévéré. Peut-être que vous avez passé un début de semaine difficile, un temps de vacances difficile. Des fois, on se dit, c'est bien les vacances, je vais pouvoir faire ceci ou cela. Et on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ce qu'on avait prévu, les vacances. On s'aperçoit que c'est difficile. On s'aperçoit que c'est usant, qu'il y a des épreuves, il y a ceci ou cela. Et Jésus est en train de dire, mais vous avez persévéré, c'est bien. Vous allez recevoir une récompense. Vous avez su surmonter ceci ou cela, mais ce n'est pas fini. Et c'est pour vous bénir que je dis cela. Ce n'est pas fini. Vous allez avoir des tribulations, vous serez criblés, mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est de rester toujours attaché au Seigneur Jésus-Christ. C'est de venir et prendre notre source, notre pain quotidien dans sa parole. Ce qui importe, ce n'est pas tant ce que nous pouvons traverser en tant que chrétiens, mais c'est comment est-ce qu'on le traverse? Est-ce que nous sommes toujours dans cette optique de dire, mais je veux marcher, je veux suivre ce chemin, je veux user de patience, poursuivre mon action malgré les difficultés, et mon action sera toujours de glorifier Jésus-Christ, là où je suis, là où je travaille. Quand je croise des amis, quand je parle aux membres de ma famille qui ne sont pas convertis, je veux toujours avoir cette pensée, user de persévérance, poursuivre mon action. C'est de pouvoir témoigner, c'est de pouvoir bénir, c'est de pouvoir glorifier le Seigneur. Quand bien même c'est difficile, je sais que Jésus est avec moi. Lorsque nous lisons, pour vous cribler, Satan vous a réclamé. Réclamer, c'est pas juste une petite interpellation, c'est pas juste excuse-moi, c'est pas quelque chose de gentil, c'est pas quelque chose qui est là de léger, c'est pas quelque chose qui est là d'éphémère. C'est Satan te veut pour te mettre sous son autorité. Satan essaiera toujours de te placer sous sa coupe. Mais j'ai prié pour toi et on y reviendra. Vous savez, les disciples qui étaient là, qui se questionnaient pour savoir qui était le plus grand, à un moment donné, alors qu'ils ont entendu, mais vous allez être criblés. Lorsque Jésus va être arrêté, la Bible, l'Écriture nous dit que tous les disciples vont l'abandonner. Et tout à l'heure, peut-être, on n'a pas prêté attention. On se dit, mais voilà, on suit Jésus-Christ, on est attaché. Et peut-être qu'on n'arrive pas à saisir l'importance dans notre vie de chrétien sur les épreuves, l'importance des épreuves, l'importance des déserts, l'importance des difficultés pour que nous puissions manifester notre foi. Parce que les disciples à ce moment-là, qui avaient entendu ces paroles de grâce, ces paroles de bénédiction, qui avaient entendu qu'ils allaient juger les 12 tribus d'Israël, je ne sais pas comment nous on aurait pris ça. Nous on sait qu'on va être là, qu'on va juger, bien sûr. Mais quand Jésus dit ça, il devait se dire, mais waouh, je peux le mettre sur ma carte de visite. Je peux le mettre sur mon Facebook pour les jeunes, les moins jeunes. Je peux le mettre là en tête. Mais quand Jésus a été arrêté, ce n'est pas ça qui est retenu. Quand ils sont partis, quand l'Écriture dit « mais tous vont l'abandonner », ce qu'ils ont retenu dans leur cœur, ce n'est pas ça. C'est qu'ils ont manqué, la persévérance, de persévérance, ils ont manqué le but, ils ont manqué le sens de leur vie. Et c'est ce que Satan essaiera toujours de faire. Vous savez, cribler la traduction, le sens, bien sûr on peut s'en douter, c'est tamiser, passer au crible, secouer dans un tamis, on s'en doute, plus ou moins, si vous voyez ce que c'est que cribler, que passer au tamis, ce genre de choses. Mais ça a une autre signification. Ça peut signifier, d'une manière au sens figuré, agitation intérieure, essayer de renverser sa foi. C'est comme si Jésus est en train d'expliquer, voilà, vous avez persévéré, c'est bien, mais prenez garde. prenez garde, parce que Satan va toujours essayer de renverser votre foi. Satan va toujours essayer de vous secouer, de vous ébranler. Satan va toujours essayer, en trouvant un moyen, quel qu'il soit, de venir renverser les fondements de votre foi, les fondements de la parole, les fondements de ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous puissiez être attaché au Seigneur. Satan va toujours essayer. Lorsque Jésus a été arrêté pour les disciples, c'était fini. Leur fondement, ce n'était pas la foi, ce n'était pas ce qu'ils avaient pu croire et expérimenter, mais c'était la présence de Jésus. Et lorsque Jésus est arrêté, plus de présence. Le quotidien va être bousculé, ils vont partir parce qu'ils n'ont pas compris les plans de Dieu. Et combien de chrétiens aujourd'hui, ils sont habitués à tel responsable, à tel pasteur, peut-être pas ici, à côtoyer tel chrétien, à s'habituer, à avoir un rythme de vie, en ceci et cela. Et dès qu'il y a quelque chose qui est bousculé, dès qu'on n'arrive plus, dès qu'on perd de vue, dès qu'il y a un changement qui survient, parce que notre fondement, parce que notre foi n'est pas bâtie sur le roc, n'est pas bâtie dans les profondeurs de Jésus-Christ, mais reste quelquefois, ou du moins peut-être superficielle, lorsqu'il y a un changement, lorsque Satan vient pour essayer de nous secouer, notre foi est renversée. Mais c'est pas ça que Jésus veut. Et lorsqu'il parle à ses apôtres, il y a toujours cet amour pour dire « Mais restez fermes, croyez, développez cette foi, cette confiance, parce que vous pouvez tenir, vous pouvez être victorieux, vous pouvez remporter des victoires dans la prière, vous pouvez voir la main de Dieu agir. » En 2015, au mois d'août 2015, on peut voir les membres de nos familles se tourner, quand bien même on voit que catastrophe, catastrophe sur catastrophe, on peut voir la grâce de Dieu. Il y a ce psaume que vous connaissez sûrement, c'est le psaume 11. Le verset 3 nous dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il ? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel à son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il ? L'Éternel, Dieu, n'a pas bougé. Il n'a pas déménagé. Il n'a pas changé d'adresse. Il a toujours le même numéro de téléphone. Ça ne sonne pas occupé. Ce n'est pas en attente. Il est toujours là. L'Éternel est dans son Saint-Temple. Quand Satan vient pour essayer de renverser, une autre version de ce passage dira, mais quand les valeurs de la société sont bouleversées, renversées, le juste, que peut-il faire ? Quand tout autour de nous, on voit que ça ne va pas, est-ce que nous aussi, nous devons ne pas aller, ne pas avoir le moral ? Lorsqu'on voit autour de nous que les ténèbres sont là, est-ce que ça veut dire que dans notre vie, nous devons avoir les ténèbres ? Ou est-ce que ça veut dire que l'Éternel est toujours dans son temple et que nous, notre place, notre chemin, notre vie, c'est dans le temple de Dieu ? Que la lumière ne dépend pas de l'extérieur, ne dépend pas du monde, ne dépend pas des circonstances. La paix de Dieu ne dépend pas de ce qu'on peut voir ni entendre. Elle dépend de Christ. Elle dépend de notre relation, de notre intimité. Elle dépend de notre confiance, de ce que nous avons déjà expérimenté. Mais pas seulement. Elle dépend de ce que nous avons encore à expérimenter. Ne restons pas sur des expériences passées. Ne pensons pas que Jésus-Christ est efficace juste pour notre conversion, qu'il a exaucé notre prière juste le jour de notre conversion, et après c'est fini. C'est faux. Quand bien même Satan vient, essaye de nous renverser, de renverser notre foi, de nous secouer comme dans un bateau en pleine tempête, est-ce que ce n'est pas le même Seigneur qui a pu calmer la tempête ? Est-ce que ce n'est pas le même Dieu qui a pu parler au vent, silence ? Est-ce que ce n'est pas le même Seigneur qui a su marcher sur les eaux et inviter Pierre avec lui ? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ce soir, Jésus-Christ ne peut pas inviter quelqu'un qui est dans une barque en disant « Mais viens, suis-moi, sors de ta barque, expérimente autre chose, expérimente ma puissance, expérimente davantage dans la prière, dans le jeûne, expérimente ce que je peux faire dans ta vie. » Beaucoup de chrétiens, et moi, et je le dis pour moi aussi, quelquefois on est dans notre barque et on est en sécurité, on se dit « Oulala, là ça va, là ça va, je ne suis pas trop secoué, ça va, je maîtrise. » Mais est-ce là vraiment ce que Dieu prévoit ? Est-ce là la pensée de Dieu, de Christ pour notre vie, pour toute notre vie ? Ou quelquefois n'y a-t-il pas peut-être une barque à enjamber pour que nous puissions vivre d'autres choses ? Et Jésus va dire, et c'est mon deuxième point, « Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. » Et c'est là le titre de mon message, « J'ai prié pour toi. » Et là, c'est vraiment une bénédiction. On connaît ce passage dans Romains 8. Je cite Romains 8 pour Laurence. Elle aime beaucoup Romains 8. « Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. » Et il intercède pour nous. Si Jésus a voulu peut-être souligner le fait que dans notre vie, dans la vie des apôtres, mais dans la vie des chrétiens, des disciples, Satan, vous, va nous, prenez courage. Vous, peuple de Dieu, prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Il voulait quand même faire ressortir, bien sûr, on comprend que là, c'est pour Pierre, mais au travers de Pierre, c'est pour nous. Il voulait quand même faire ressortir le fait qu'il priait pour nous d'une manière individuelle. Parce qu'il nous connaît. Il sait ce que nous traversons. Il connaît parfaitement les situations, les circonstances. Et parce qu'il nous connaît, il peut prier d'une manière parfaite, d'une manière précise. Ou devrais-je dire « mais » quand bien même Satan essaiera de te renverser, « mais j'ai prié pour toi. » Autrement dit, ce n'est pas ta vie qui doit se résumer à être renversée. Autrement dit, ce n'est pas la finalité pour toi. Si c'est pour une période de vie, si c'est pour que nous puissions expérimenter la foi, notre confiance, tout ce que nous avons partagé, il y a un moment donné où nous devons saisir l'amour de Christ sous un autre angle peut-être, parce que c'est un amour parfait, un amour divin. Nous devons saisir l'amour de Jésus-Christ, cet amour qui a la délicatesse de prier tous les jours pour nous. Mais j'ai prié pour toi. Crois-tu que lorsque tu passes des difficultés, Jésus te met de côté ? Crois-tu que parce que tu verses des larmes, parce que tu as chuté encore, parce que tu t'es trompé de chemin, parce que tu n'as pas réussi à remporter cette victoire pour la énième fois, crois-tu que Jésus est en train de te dire « mais je vais arrêter de prier pour toi ». Je vais arrêter, non là je prie plus, c'est fini. Crois-tu que parce que tu vis des choses peut-être même que les personnes les plus intimes autour de toi ignorent ce que tu es en train de vivre, crois-tu que Jésus-Christ, lui, n'est pas en train de prier pour toi ? C'est ce message qu'il est en train de passer. Et c'est ce message-là, c'est cette pensée que j'avais pour ce soir. J'ai prié pour toi. Mais j'ai prié parce que Jésus-Christ a ce souci pour nous dans notre vie de dire, mais je ne veux pas que ta foi défaille. Je ne veux pas que tu tombes. Je ne veux pas qu'il t'arrive ceci ou cela. Je ne veux pas que tu sois dans la difficulté. Je prie pour toi. Il y a ce texte, c'est dans Hébreux chapitre 1er, au verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Soutenant toutes choses par sa parole puissante. La parole de Jésus-Christ suffit. Suffit dans notre vie. Suffit dans notre quotidien. La parole de Jésus soutient le monde. Et si elle soutient le monde, est-ce que nous allons la rendre inefficace pour notre vie? Est-ce que nous n'allons pas accepter qu'elle puisse soutenir notre existence, notre quotidien, nos épreuves, nos difficultés? Est-ce que ça serait trop de considérer que Jésus-Christ soutient toute chose? Mais dans toute chose, c'est nous aussi. C'est ce que nous pouvons traverser, c'est ce que nous pouvons vivre. Jésus-Christ est en train de dire, mais je ne veux pas, je prie pour que ta foi ne défaille pas, pour que tu restes attaché à moi. Et il y a des choses, bien sûr, qui peuvent nous faire défaillir. On pourrait traduire le sens littéral, défaillir dans ce contexte-là, la racine, renvoie à deux choses et la traduction, ça serait hors de la volonté. Jésus prie pour qu'on reste dans sa volonté, pour que nous ne soyons pas en dehors des plans de Dieu, de la volonté de Dieu. Les jeunes, pour vous, les moins jeunes, vous qui cherchez, vous qui attendez, qui désirez faire la volonté de Dieu, est-ce que ce n'est pas une bénédiction ce soir pour nous d'entendre, de relire ces choses? De voir que Jésus-Christ se soucie de nous, lui qui a créé l'univers, lui qui soutient toutes choses par sa parole, lui qui appelle les choses à l'existence, qui n'a pas besoin de déposer un brevet, qui n'a pas besoin de déposer un permis de construire, qui n'a pas besoin de tracer des plans. Par sa parole, il crée la vie. Il soutient toutes choses et il y a tellement de choses, il y a tellement d'éléments qui peuvent venir pour nous faire défaillir. L'incrédulité, parce que les choses ne se passent pas toujours comme on l'a pensé, imaginé. Les disciples, peut-être, certains devaient s'imaginer qu'il allait être roi, leader politique, le peuple juif attendait cela. Quand bien même Jésus avait annoncé qu'il allait mourir, qu'il devait mourir, quand bien même il a préparé ses disciples, c'est pas ça, ils n'ont pas su. Ils ont été secoués, ils sont tous partis. Peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu as été secoué et tu es parti. Et dans la prière de Jésus-Christ, dans la volonté de Christ, c'est que nous puissions revenir. L'Éternel est dans son temple, il n'a pas bougé. Nous avons cet accès auprès de Dieu. Nous avons toujours cette possibilité de revenir dans la repentance, dans l'obéissance pour faire sa volonté. On peut défaillir parce qu'on n'accepte pas les épreuves, parce qu'on est là sans cesse en demandant à Dieu « Mais pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ça s'est passé ?» Et en restant tellement bloqué sur les « pourquoi », on ne se rend même plus compte qu'on demande à Dieu qu'il nous rende des comptes. On peut défaillir pour ceci, pour cela. On peut être hors de la volonté de Dieu parce qu'on ne veut plus, parce qu'on s'est laissé prendre, parce qu'on a été secoué, on a pris un mauvais chemin. Et Jésus-Christ est en train de dire, mais Mais je prie pour que, et je vais le traduire comme ça, je prie pour que même lorsque tu vas être en dehors de ma volonté, tu puisses revenir, tu puisses venir, et c'est ce qu'il va dire à Pierre, et quand tu seras converti. La version littérale nous dit quand tu seras revenu. Il y a tellement de choses qui peuvent nous faire défaillir, et j'en ai noté quelques-unes. Peut-être c'est à nous de nous interroger, est-ce que nous sommes là, est-ce que nous avons perdu pied avec la foi, est-ce que nous sommes toujours dans cette persévérance, dans cet attachement avec le Seigneur. Amos 2, verset 4 nous dit, et je vais vous le lire dans la version Parole de vie, « Voici ce que le Seigneur dit, j'ai beaucoup de crimes à reprocher aux gens de Juda, le plus grave est celui-ci, ils ont rejeté mes enseignements, ils n'ont pas obéi à mes commandements. Ils se sont trompés comme leurs ancêtres qui avaient suivi les faux dieux. Et ces dieux les ont trompés eux aussi. C'est pourquoi je ne changerai pas la décision que j'ai prise. Je mettrai le feu au pays de Juda. Il dévorera les belles maisons de Jérusalem. Rejeter les enseignements. Comment ne pas défaillir lorsqu'on n'accepte pas la parole de Dieu, lorsqu'on n'accepte pas d'être repris, de ne pas obéir aux commandements. Vous savez, il y a des personnes qui ne rejettent pas la parole de Dieu. Ils acceptent, ou du moins je devrais dire ils acceptent à moitié, parce qu'ils ne vont quand même pas obéir, et c'est ce qui est dit. Parce qu'on peut rejeter, mais on peut être dans une illusion de faire ce que Dieu veut, dans une illusion que notre vie chrétienne est bien, dans une illusion que nous sommes stables, que nous sommes dans la volonté de Dieu. Mais si nous n'obéissons pas, on ne peut pas être dans la volonté de Dieu. Si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, comment est-ce qu'on peut arriver à être dans sa volonté? Si on n'est pas dans cette obéissance à la conformité de sa parole, comment est-ce qu'on peut résister quand le diable qui rôde autour de nous vient pour essayer de nous prendre? Comment est-ce qu'on peut arriver lorsqu'on est là et qu'on se laisse tromper par le monde en étant chrétien? On se laisse tromper en se disant « mais tout ira bien ». On ne peut pas. Il y a tellement de choses et ça peut nous faire défaillir. Mais si c'est écrit dans la parole, c'est pour que nous puissions nous réajuster, pour que nous puissions dire, mais c'est vrai. Jésus m'encourage à être persévérant, mais ce n'est pas être persévérant dans l'ignorance, ce n'est pas être persévérant dans mon propre chemin, ce n'est pas être persévérant dans mes propres pensées, c'est être persévérant dans la volonté de Dieu, dans sa parole, être persévérant dans ses enseignements. Seigneur, c'est dur, tu sais, de faire ceci, de faire cela dans ce monde. J'ai des difficultés à me garder dans la pureté. J'ai des difficultés parce que j'ai des combats, mais Seigneur, pour toi, parce que tu le demandes, je veux le faire. Parce que je sais que lorsque je fais ta volonté, ta prière est efficace. Parce que je sais que si je suis dans ta volonté, quand bien même c'est dur, ta prière, parce que les prières de Jésus-Christ sont toujours exaucées. On est d'accord ? Père, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Les prières de Jésus sont exaucées. Mais Jésus ne peut pas prier pour nous si nous refusons ce qu'il veut pour nous. Sa prière ne peut pas aboutir, ne peut pas avoir d'impact si nous sommes là et que nous rejetons ses commandements, sa parole. Il y a ce texte aussi que j'ai noté, après quoi je terminerai. Osée chapitre 8, le verset 11 nous dit « Éphraïm a multiplié les autels pour pécher, et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. » C'est un texte fort. La version Parole de vie nous dira pour ce verset 12 « Je pourrais écrire 1000 commandements pour lui, il serait pour lui comme une chose étrangère. Quel chemin pouvons-nous prendre, nous qui avons connu le Seigneur, pour que le Seigneur devienne un étranger pour nous? Comment dire, comment arriver à penser, à imaginer que nous pouvons rester droits quand le Seigneur devient un étranger, quand ce qu'il nous demande, quand sa parole est pour nous comme quelque chose d'étranger, d'inconnu pour nous? Depuis combien de temps est-ce que tu n'as pas pris à cœur de lire ta parole, de prier? Depuis combien de temps est-ce que tu ne t'es pas humilié devant le Seigneur en lui demandant qu'il vienne t'aider? Depuis combien de temps est-ce que tu n'as pas voulu lutter? Depuis combien de temps est-ce que tu n'as pas pris la peine d'interpeller Jésus-Christ alors que lui, il n'attend que ça? Depuis combien de temps? Depuis combien de temps est-ce que tu penses que tu es encore debout alors que tu es à terre sans t'en rendre compte? Je pourrais écrire 1000 commandements pour lui. Je ne sais pas si on voit la délicatesse de Dieu qui est là, qui exprime, alors que Jésus est là, il prie pour nous, qui dit, mais je pourrais faire tellement pour toi. Je pourrais aller au-delà, et c'est ce que la parole nous dit, au-delà de ce que tu peux penser, imaginer. C'est comme si Dieu nous parlait d'une manière personnelle ce soir, en nous disant, mais je pourrais faire tellement dans ta vie. Je pourrais te combler dans tellement de domaines, tu n'as même pas idée. Et pourtant, tu me regardes comme un étranger. Si on en est là, mais revenons ensemble à la croix. Humilions-nous, comprenons que Jésus-Christ nous aime et qu'il prie. Satan vous a réclamé, mais je prie pour toi. Satan voudra toujours vous réclamer, voudra toujours renverser. On pourrait dire, Satan voudra toujours qu'on s'éloigne l'un de l'autre, qu'il y ait une distance telle que Christ devienne un étranger pour toi. Mais moi, je prie pour toi. Moi, mon désir, c'est qu'on ait cette relation d'intimité. Mon désir, c'est que, et le désir de Dieu, c'est que sa parole pénètre notre âme, pénètre notre cœur, qu'on prenne réellement à cœur ce que Dieu nous demande, ses commandements. Et il y a tellement de choses à faire, tellement de bénédictions, de comprendre que ce n'est pas dans la chair qu'on peut avoir une satisfaction. Ce n'est pas dans ce que le monde va nous donner qu'on peut être satisfait. Mais c'est lorsqu'on obéit à Dieu. C'est là le bonheur, c'est là la joie. Lorsque c'est dur, mais qu'on décide de persévérer dans la voie du Seigneur, dans ce chemin qu'il a tracé pour nous. Lorsque, quand bien même, le monde nous regarde de travers, lorsqu'on n'est pas compris du monde, mais des nôtres, de notre famille, lorsqu'on est regardé de travers par ceux que peut-être qu'on a le plus aimé, c'est là le bonheur, c'est là la joie de faire la volonté de Dieu. Jude va nous dire, or à celui qui peut vous préserver de toute chute. Oui. C'est lui qui peut vous préserver de toute chute. C'est Jésus-Christ. C'est Jude chapitre 1 verset 24. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. C'est Jésus qui vous garde. C'est Jésus qui nous garde de toute chute. Je terminerai juste en relevant ce que Jésus va dire à Pierre. J'y suis un peu venu, mais j'aimerais terminer avec cela. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et là, on peut être surpris quand même. Pierre, un inconverti. Pierre, l'apôtre, un inconverti. La traduction littérale, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai prié pour toi que ton adhérence ne manque pas, toi-même étant revenu, fortifie tes frères. » Jésus savait que Pierre allait prendre un chemin un peu de travers. Jésus savait, il sait, mais c'est là la délicatesse de Christ. C'est là son amour, parce que il aurait pu dire, mais Satan vous a réclamé, Pierre, voilà ce que tu vas faire. Écoute, t'es pitoyable. Pourtant, on a parlé, pourtant je t'ai tout donné pour que tu puisses tenir ferme, et regarde, t'es pitoyable, tu vas me renier. Il aurait pu dire, écoute, voilà, tu vas arrêter le ministère, tu vas retourner à la pêche. T'es bon qu'à ça, Pierre, tu vas retourner à la pêche. Il aurait pu le dire, bien sûr, il n'aurait pas pu parce qu'il est amour, il n'aurait pas pu parler ainsi. Nous, moi, j'aurais pu le dire. J'aurais pu le dire pour ma vie, ça m'est arrivé de vivre des choses où on pense que tout est fini. Mais la délicatesse de Dieu, c'est lorsque tu seras revenu, je sais que tu vas être criblé, je sais que tu vas être renversé, mais je prie pour toi. Et quand tu vas revenir à moi, mon frère, ma sœur, il y a toujours, toujours le temps de revenir. Il y a toujours les bras de Jésus-Christ qui sont ouverts. Il sait, est-ce que tu crois réellement que Jésus, sur la croix, il s'est dit, ah non, je ne veux pas me donner. Je ne veux pas me donner, je vais prendre mon exemple pour Jonathan, parce que je sais ce qu'il va faire en septembre 2000, je ne sais pas. Je sais que là, il va pas assurer, alors je ne veux pas. Est-ce que vous croyez que lorsque Jésus-Christ s'est donné, il ne savait pas les chemins, ce que nous allons traverser? Est-ce que vous croyez qu'il ne savait pas le nombre de fois qu'on allait le renier verbalement dans notre cœur? Est-ce que vous croyez réellement qu'il ignorait les tempêtes qui allaient nous faire décrocher, défaillir de notre foi? Et là, il est encore en train de nous rappeler qu'il est venu dans ce monde pour sauver le monde et pas pour le juger, pas pour le condamner, qu'il est venu pour nous donner la vie. Et si quelqu'un n'avait pas fait la paix avec Dieu ce soir, si quelqu'un était dans l'incompréhension quant à cette certitude, si son nom est inscrit dans le livre de vie, c'est encore possible de s'humilier, de se repentir et de voir votre vie changer. Mais vous, vous qui êtes chrétien, vous qui vous êtes converti, qui avez peut-être pris un chemin de travers, une route parallèle, et vous ne savez pas comment revenir, vous croyez que Jésus-Christ vous dit « mais tu ne peux plus revenir, c'est faux ». Jésus est en train de dire « mais toi-même, quand tu vas revenir, toi, tu as toujours cette possibilité de revenir. Tu as toujours cette possibilité de retourner dans ce que Dieu t'a demandé. Peut-être que Dieu t'a demandé quelque chose il y a un an, deux ans, six mois en arrière. Entre-temps, il y a eu tellement de choses, tu te dis, c'est fini. C'est fini, je ne vais pas pouvoir faire ce que Dieu m'a demandé. Peut-être que Dieu t'a parlé d'une manière tellement personnelle, en te donnant des promesses sur ta vie, pour tes enfants, pour tes amis, pour ta famille. Et parce que tu t'es laissé avoir, tu t'es laissé renverser, tu crois que Jésus-Christ n'est pas là en train de te dire, mais ses promesses sont toujours valables, reviens. Étant revenu, fortifie tes frères. Dis-leur que mon amour est toujours le même. Dis-leur que je suis le Dieu qui restaure. Dis-leur que je suis le Dieu qui rétablit. Dis-leur que je suis capable encore d'accomplir mes promesses dans des vies. Dis-leur que je suis capable de transformer, de bouleverser les existences. Quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Fortifie. Je ne sais pas après ce qu'on peut vivre. Je ne sais pas ce que vous pouvez vivre. Je ne sais pas où vous en êtes. Je ne suis pas en train de dire que Dieu va tout excuser. Je ne suis pas en train de dire que, peu importe ce que vous faites, Jésus est là, toujours les bras remplis d'amour. Oui, les bras sont toujours remplis d'amour, mais il y a la repentance. Et Pierre est passé par cela. Il y a une condition, il y a un état de cœur. Parce que si Jésus prie, nous, de notre côté, il y a quand même des choses à faire. Si on entend que Jésus prie, il y a « et toi ?» et toi, fais ce que tu dois faire pour revenir. Mais quand même, ne loupons pas le coche. Quand même, le soir arrive, on le sait. Ne perdons pas du temps dans notre entêtement, ne perdons pas du temps en se laissant avoir, happé par l'ennemi qui nous dit que c'est fini pour nous. Le mot du Seigneur, c'est « étant revenu ». Quand tu seras converti, converti, c'est faire demi-tour, un virage à 180 degrés. Lorsque tu auras fait ce virage dans ta vie, affermis tes frères, sois une bénédiction pour tes frères, mais ne traîne pas. Ce n'est pas écrit, c'est moi qui le dis. Ne traîne pas pour revenir. Ne traîne pas pour faire ce virage à 180. Ne laisse pas passer du temps. Ne traîne pas. Si Jésus ce soir nous posait cette même question qu'il a posée à Pierre, m'aimes-tu ? Est-ce que nous pouvons tous répondre oui ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut-être hésite, qui peut-être dit « mais moi je ne sais pas » ou qui peut-être pense que Jésus ne l'aime pas, je ne sais pas. Étant revenu, affermis tes frères. On pourrait prier un instant ? Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous bénis. Tu nous bénis, Jésus-Christ, par ta délicatesse. Comment tu t'es exprimé ? Comment tu as pris le temps, avec ta patience, d'expliquer les choses à tes apôtres, mais à nous aussi d'une manière personnelle. Tu nous connais tellement, tu sais, ta parole nous dit, tu sais ce qu'il y avait dans le cœur des hommes, tu sais ce qu'il y a dans notre cœur, tu sais combien nous sommes faibles, et pourtant tu nous encourages toujours. Ton désir, c'est que nous puissions t'obéir. Mon Dieu, je te prie, peut-être il y a là un bien-aimé, un ami qui est en difficulté, qui a vu sa vie être complètement renversée, chavirée par Satan. Seigneur, que ce soir il puisse prendre cette décision ferme de revenir à toi, de revenir, de s'humilier, de te demander pardon, qu'il y ait une repentance sincère, afin qu'il puisse être là, comme restauré pour bénir les autres, pour témoigner. Mon Dieu, que personne ne soit loin de toi ce soir. S'il y a quelqu'un qui n'a pas fait la paix avec toi, que ce soir, ça soit le moment où il prenne cette décision, ou qu'il ne reste pas loin de toi encore un moment, un instant de plus, parce qu'on ne sait pas. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu que tu ne sais pas ce que sera ton demain, ton lendemain. Tu ne sais pas ce que peut être ta vie, ce que va être ta vie. Ce que Dieu nous demande, c'est aujourd'hui de mettre notre vie en règle. Mon Dieu, peut-être il y a quelqu'un qui pense qu'il a trop péché, qu'il est trop usé, qu'il a trop fait ceci ou cela, mon Dieu, dis-lui que tu l'aimes, que tu pries, que tu intercèdes pour nous. Que tu pries pour qu'on puisse être dans la volonté du Père, comme toi tu l'as été. C'est là ta prière pour que nous puissions saisir la bénédiction qu'il y a dans notre vie, que nous puissions nous emparer de cette joie que tu as voulu donner à tes disciples, que nous ayons cette joie ce soir, de faire ta volonté, de persévérer, même si c'est difficile. Oui, parce que nous attendons ton retour, Jésus-Christ. Sois béni et honoré au siècle des siècles. Amen.